Réplique, Gaspard de la nuit, avec Elisabeth de Fontenay. Obstinément absent à lui-même, Gaspard est obstinément présent dans la vie et l'œuvre de sa sœur, a écrit Jérôme Garcin dans L'Obs. En effet, la dernière page du Silence des bêtes est une adresse magnifique à celui que vous appelez alors Polynis, Elisabeth de Fontenay. Et toi, mon pauvre enfant, qu'aime les animaux et qui depuis si longtemps semble ne plus rien vouloir. Ce livre n'est qu'un pont vers toi, Polynis, survivant des combats que les bêtes n'ont pas menés. Paraît aujourd'hui, 20 ans tout juste, après le silence des bêtes, un livre non plus seulement dédié, mais consacré à ce frère handicapé, Gaspard de la nuit. Malgré vos hésitations, vos réticences, vos scrupules, vous avez jugé le moment venu d'écrire sur lui. Pourquoi maintenant, Elisabeth de Fontenay?
Auparavant, je ne pouvais pas. Et maintenant, il a fallu. C'était une sorte de nécessité, d'obligation, je ne sais pas comment dire. Parce que c'est nos fins de vie à l'un et à l'autre. Nous sommes âgés. Nous sommes des personnes âgées. Et je ne voulais pas laisser se terminer ces deux vies, cette vie liée à la mienne, sans essayer d'en faire un achèvement. Et écrire, ça a été un achèvement pour moi. C'est-à-dire donner un sens à ces deux biographies qui s'interrompent, qui s'interromperont, sans descendance. C'est très important. Et j'ai pensé qu'il fallait donner maintenant la pleine signification à son existence et au lien de son existence et de la mienne.
Et en même temps, vous l'appelez Gaspard jusqu'à la fin du livre.
Alors, je l'appelle Gaspard.
Pourquoi Gaspard ?
J'aime beaucoup ce prénom. J'aime ce prénom-là plus que le sien. D'autre part, il y a un livre du XIXe siècle extrêmement connu, de Mallarmé, de Baudelaire, qu'il aimait beaucoup, Gaspard de la nuit,
d'Aloysius Bertrand.
Aloysius Bertrand. Il y a surtout une suite de Ravel, une suite musicale de Ravel. Gaspard de la nuit, ça m'a semblé très, très éloquent. La nuit désignant, en ce qui le concerne, en ce qui nous concerne, un enfermement en soi, une coupure totale de la réalité. Et j'ai pensé que c'était une sorte de fiction de l'appeler Gaspard. J'aime pas beaucoup ce mot, mais je fictionnais un peu ce récit. J'en faisais pas un récit autobiographique. Du reste, c'est pas mon autobiographie, je l'appelais autobiographie de mon frère, en hommage à Pierre Pachet.
Qui a écrit une très belle autobiographie de mon père.
Livre que j'ai adoré. Et très audacieux. Et donc c'est en hommage à Pierre Pachet que j'ai donné ce titre. Et je ne vais pas dire que j'ai romancé. J'aime pas le mot fictionné. Mais enfin, disons que j'ai essayé de mettre un peu de poésie dans la prose de son existence.
Un peu de poésie dans la prose, en effet. Et vous y avez parfaitement réussi, Elisabeth de Fontenay. D'un autre côté, il y a chez vous un constant souci d'exactitude. De ce point de vue-là, vous ne romancez pas, vous ne fictionnez pas, et vous vous interrogez tout au long du livre sur la nature de sa maladie. Je me souviens d'avoir lu, il y a un an ou deux, le livre de Piedad Bonnet, une poétesse colombienne, sur la mort de son fils, qui était, lui, atteint d'une forme de schizophrénie extrêmement douloureuse. Il avait des hallucinations, il se sentait persécuté, et il s'est jeté par la fenêtre. Mais le titre qu'elle a donné à ce livre me fait penser au vôtre, puisqu'elle l'a intitulé « Ce qui n'a pas de nom ». ce qui n'a pas de nom. Et il y a un peu quelque chose comme ça. Comment nommer, je ne sais pas, la maladie ou le handicap de votre frère, Élisabeth de Fontenay?
Le mot qui est donné par les médecins, c'est psychose infantile. Alors c'est très important pour moi parce que psychose, une psychose, c'est un événement, c'est quelque chose qui arrive dans une vie. Je ne sais pas quand c'est arrivé à mon frère, si c'est au moment de la naissance, si c'est après, personne ne sait. Mais l'idée que c'est une psychose est très importante parce que il pouvait passer pour un arriéré, tout simplement. Or, je tiens à l'idée de devenir, à l'idée d'histoire, d'une maladie qui survient, qui surgit, et qui change la donne.
Oui, mais vous dites que votre mère a été très vite consciente du retard de son fils, et qu'elle donc, elle s'est appliquée à lui apprendre un certain nombre de choses élémentaires, le calcul mental, l'orthographe, entre autres. Et vous dites aussi qu'il avait, vis-à-vis de vous, de rares accès de violence, ce qui fait qu'on a été amené à le mettre dans une institution en Suisse où il a subi des traitements très forts et on ne sait pas aujourd'hui de quoi il souffre. C'est-à-dire, est-ce de sa maladie, cette psychose infantile, ou du traitement très violent dont il a bénéficié contre cette maladie, car il n'est plus violent, mais ça l'a condamné à une forme d'hébétude, Élisabeth de Fontenay.
Alors, il a des symptômes caractéristiques d'autisme, mais il n'est pas autiste, il n'a jamais été diagnostiqué autiste. Et en lisant des choses sur la psychiatrie, sur l'histoire de la psychiatrie, je découvre que le concept d'autisme est très récent. Récent, il date des années 40, 50, et que on pensait que l'autisme était une forme de schizophrénie. Et je pense que ce mot de schizophrénie, s'il a été prononcé, a dû faire une peur terrible à mes parents. Ils ont pensé qu'ils avaient un fils qui allait devenir fou et qui allait faire des choses effrayantes, peut-être des crimes, je ne sais pas. Et c'est une des raisons pour lesquelles, à mon avis, ils l'ont éloigné de moi et mis en Suisse et condamné à ce traitement, c'est la peur de la schizophrénie.
Et vous dites aussi que c'est une fatale déficience dont vous ne saurez jamais à quel point elle aurait pu être autrement traitée. Donc vous vivez aussi avec cette interrogation qui est une véritable torture.
Oui, parce qu'il a été en analyse chez une assistante du docteur Nacht et il a complètement changé à ce moment-là. Il était assez silencieux, un peu hébété, très coupé du réel. Et tout à coup, en analyse chez Nacht, chez cet assistant du docteur Nacht, le docteur Hellier, il s'est mis à beaucoup parler. Et c'est à ce moment-là qu'il a dit à son père, à table, laissez-moi vivre. Ce qui est un mot incroyable.
Incroyable.
Mais qu'il ne faut peut-être pas surinterpréter. Parce que mon père n'était pas méchant avec lui. On ne l'empêchait pas de vivre. Mais s'il y a quelqu'un qui l'empêchait un peu de vivre, c'était plutôt sa mère qui le mannequinait. C'est un mot du XVIIIe siècle que j'aime beaucoup. Qui lui donnait des bonnes manières.
Qu'il a d'ailleurs gardé. Qu'il a aujourd'hui. Hein. Vous le dites ça aussi. Mais
il était parfait dans les enterrements et les mariages de la famille.
Et vous dites aussi, et j'aimerais qu'on s'y attarde, parce que c'est une phrase très forte, vous dites: ce qui me fait souffrir, ce n'est pas son retard mental, c'est son absence d'affect. Et vous dites que pour vous, c'est quasiment insupportable, Élisabeth de Fontenay.
Oui, parce que il est sans ce qu'on appelle l'empathie. Il ne se représente pas, il ne ressent pas ce que l'autre ressent. Alors, il y a un exemple que je donne.
Oui.
Je l'avais confié à une amie pendant que j'allais faire passer des examens à la Sorbonne. Et quand je reviens, je me plains d'être tombé dans le bus, je m'étais fait très mal. Et il écoute le récit, et il me dit, est-ce que je peux fumer une cigarette? J'ai été très accablé par cette absence d'empathie, cette absence de communication entre nous, cette absence de représentation de ce qu'éprouve l'autre. Et c'est certainement ce qui m'a fait le plus souffrir chez lui, son apathie, son indifférence.
Son inébranlable indifférence.
Son inébranlable indifférence.
Oui. Et un peu plus loin dans le livre, vous opposez cette attitude à celle de ceux qui ont été diagnostiqués trisomique 21 et qui se montrent vivants, affectueux, avides de communication, si tristes, eux, quand ils quittent leur famille et si joyeux quand ils la retrouvent.
Oui. Et ça me fend le cœur, ça, parce que je ne souhaiterais pas qu'ils soient trisomiques, parce qu'ils seraient moins, beaux. Parce qu'il est, il est très beau, enfin, il est encore assez beau. Mais je ne souhaite pas du tout qu'il soit trisomique. Mais j'envie les rapports familiaux qu'ont les trisomiques, cette tendresse, cette gaieté qui est la leur. Et cette communication, et surtout ce regret quand ils quittent leur famille. Alors cette joie quand ils la retrouvent. Et je ne connais pas ça avec lui.
Mais j'ai vu l'autre jour à la télévision une image qui m'a frappé et même bouleversé. C'était dans le cadre de l'émission C'est à vous, où on projette un moment des petits films faits pour faire rire, si j'ose dire. Et il y en a eu un qui ne pouvait pas faire rire, mais faire pleurer. C'était l'image d'un trisomique, justement, américain, de 58 ans, qui avait été séparé pour la première fois de son père, lequel en a 88. Et on le voit à l'aéroport revenir vers son père. Il se précipite vers lui dans un élan de tendresse, d'affection absolument extraordinaire. C'était un moment incroyable. Et évidemment, j'ai pensé par opposition à la situation qui est la vôtre avec votre frère parce que vous ne pouvez pas connaître avec lui de moments pareils. À aucun moment. Non,
c'est une très belle histoire que vous racontez là.
Ce livre, vous avez essayé de lui donner une forme de poésie. En même temps, dans ce livre, vous êtes resté philosophe. Et vous dites ceci, que j'aimerais que vous commentiez. Gaspard a constamment veillé sur mon chemin, et c'est parce qu'il a constamment veillé sur mon chemin que j'ai pu, en un déplacement paradoxal, consacrer un long moment de mon travail à relire l'histoire de la philosophie en la mettant à l'épreuve du psychisme des animaux.
Alors,
Élisabeth de Fontenay.
Ce que je peux dire, c'est que, même si ça paraît excessif, c'est que Gaspard a été une sorte de maître intérieur. À la fois ce qui m'était le plus extérieur et le plus intime. Et ce maître intérieur a été à la fois dans mon parcours philosophique et dans ma vie un ralentisseur, un frein et un accélérateur. C'est lui qui m'a fait freiner et m'a empêché de dire des bêtises et d'écrire des bêtises, car je crois que j'ai écrit assez peu de bêtises dans ma vie, contrairement à beaucoup de mes collègues. Et en même temps, un accélérateur, puisque il m'a donné à réfléchir. J'aurais peut-être pas fait de philosophie s'il n'avait pas été ce qu'il est. Et ça a été le ferment, la source. Je ne dirais pas comme De Gaulle, de sa fille. C'était la grâce de Dieu. C'était une grâce de Dieu. Je dirais pas ça. Mais ça m'a empêché de m'égarer. Ça m'a complètement empêché de m'égarer dans la spéculation, dans la toute-puissance des idées.
Alors, je voudrais d'abord savoir quelle bêtise vous a-t-il empêché de dire ou de commettre, Élisabeth de Fontenay. Comment se fait-il qu'il vous ait rendu lucide à un moment donné ou à un moment où vos collègues ne l'étaient pas?
Il m'a empêché de... Je pensais surtout à la politique. Il ne m'a pas beaucoup empêché de faire des bêtises ou de dire des bêtises en politique. Mais il m'a constamment rappelé à la vulnérabilité et au devoir de protéger la vulnérabilité et non pas de la protéger seulement, mais de fonder beaucoup, de fonder la pensée sur la vulnérabilité. Exemple de ce que des bêtises que j'ai évitées. Eh bien, les bêtises animalière, animaliste. Je suis extrêmement réservé vis-à-vis de l'animalisme, vis-à-vis de ce qu'ils appellent l'antispécisme. Je suis spéciste. Et c'est grâce à lui. Peut-être que j'aurais laissé filer si je n'avais pas réfléchi très longuement à la différence qu'il peut y avoir entre son psychisme et les psychismes animaux.
Mais alors là, c'est un point de vue paradoxal, parce que d'un autre côté dans le livre, vous dites, c'est d'un seul et même geste, sans cesse réitéré, qu'on a séparé les hommes des animaux et qu'on a relégué des catégories d'hommes. Et ce passage fait écho à une belle méditation de Lévi-Strauss que vous citez et commentez dans Le silence des bêtes. On a commencé par couper l'homme de la nature et par le constituer en règne souverain, écrit Lévi-Strauss. On a cru ainsi effacer son caractère le plus irrécusable, à savoir qu'il est un être vivant. Jamais mieux qu'au terme des quatre derniers siècles de son histoire, l'homme occidental ne peut-il comprendre qu'en s'arrogeant le droit de séparer radicalement l'humanité de l'animalité, en accordant à l'une tout ce qu'il refusait à l'autre, il ouvrait un cycle maudit et la même frontière, constamment reculée, servirait à écarter les hommes d'autres hommes et à revendiquer au profit de minorités toujours plus restreintes le privilège d'un humanisme corrompu, aussitôt né, pour avoir emprunté à l'amour propre son principe et sa notion. Est-ce que ça ne conduit pas justement à une forme d'antispécisme? On veut rabattre le caquet de l'homme et il fait partie, au même titre que les autres espèces, du monde du vivant.
Alors, je suis d'accord avec ce texte de Lévi-Strauss, évidemment, puisque je l'ai cité, il est magnifique. Mais qu'un certain humanisme du propre de l'homme, le propre de l'homme, c'est-à-dire la perfectibilité, la raison, la liberté, etc., qu'un certain humanisme du propre de l'homme ait permis d'exclure ceux qui ne sont pas conformes à ces critères, et les animaux, c'est une évidence. À ce propos, je voudrais insister sur un point. Je refuse d'exclure, mais je ne dis pas qu'il faut inclure. Contraire de l'exclusion n'est pas l'inclusion. Le contraire de l'exclusion, c'est l'appartenance à la communauté, c'est la réintégration dans la communauté, c'est tout ce qu'on veut, mais pas l'inclusion qui est un mot ridicule. Ridicule.
Oui, qui est utilisé à tort et à travers.
Bon. Si vous voulez, je vais dire une chose qui vous énerve souvent, en même temps. Je suis antispéciste. Je ne considère que l'être humain, même un être humain fou, muet, arriéré, a une histoire, a des désirs, à un psychisme différent à cause du langage articulé.
Donc vous êtes spéciste, vous avez dit je suis antispéciste. Non, vous êtes spéciste à cause de ça.
Excusez-moi, bien sûr. J'ai beaucoup de mal à comprendre ces
mots. Moi aussi, j'ai du mal à comprendre ces mots-là.
Je cafouille.
Oui, bon. Vous êtes spéciste parce que...
Je suis spéciste, excusez-moi. Voilà, je suis spéciste.
Et en même temps...
Vous
dites que cette vulnérabilité des hommes... de certains hommes vous rend sensible à la vulnérabilité des animaux.
Voilà.
C'est ça.
Alors, voilà. Je crois que je vais dire une chose évidente. Je crois qu'il y a quelque chose qui caractérise la singularité humaine. C'est la responsabilité. Les animaux ne sont pas capables de responsabilité. Les hommes, si. Les hommes sont capables de la responsabilité d'hommes qui ne vont pas bien et des animaux. Et les animaux sont quelquefois, comme les chiens, absolument adorables avec les humains, mais la responsabilité, il faut peut-être le langage articulé.
Oui, c'est bien pourquoi il y a une contradiction dans l'antispécisme, c'est-à-dire nous sommes une espèce comme une autre, disent les antispécistes, c'est la raison pour laquelle nous devons nous occuper des animaux, mais si nous étions une espèce comme une autre, nous n'en aurions aucun souci.
Alors, entendez-moi bien, je suis darwinienne, je suis évolutionniste, je pense que l'homme est un animal, bien entendu, mais qu'il y a une émergence un peu énigmatique, dont on ne sait pas du tout exactement les raisons, une émergence qui fait qu'on ne peut pas parler de l'animal humain. Je ne peux pas supporter qu'on parle de l'animal humain. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas évolutionniste.
Et à cet égard, vous citez Descartes.
Oui.
C'est très intéressant parce qu'évidemment, Descartes, pour tous les défenseurs de la cause animale, c'est le mauvais objet. Et à juste titre, c'est lui qui a parlé des animaux-machines. Mais d'un autre côté, vous lui faites ce crédit il a écrit ceci, « C'est une chose bien remarquable qu'il n'y a point d'homme si hébété et si stupide, sans en excepter même les insensés, qu'il ne soit capable d'arranger ensemble diverses paroles et d'en composer un discours par lequel ils fassent entendre leurs pensées. » Donc, Descartes, son dualisme est radical, mais dans sa définition du propre de l'homme, il fait quand même entrer votre frère.
Tout à fait.
Et ça, c'est...
Et ça, ça a été très important pour moi quand j'ai commencé à faire de la philosophie, quand j'ai commencé à l'enseigner. Je ne pouvais pas éviter ce texte des méditations, la première méditation, qui, bien sûr, est dualiste au sens où il oppose la matière et la pensée, mais fait de l'homme un mélange, une union d'âme et de corps, différentes des animaux qui ne sont pas union d'âme et de corps. C'est très compliqué parce que c'est anti-aristotélicien et je pense profondément au terme de ma vie, de mon parcours philosophique, que Aristote et Husserl, en parlant du psychisme animal, Aristote ne parle pas de psychisme, il parle de l'âme. Mais il y a une continuité des âmes chez Aristote et chez Husserl, la même chose. Et je suis très profondément de ce côté-là. Mais Descartes reste quelque chose que je ne peux pas contourner à cause de Gaspard.
Oui, une amie, notre amie me disait que votre livre, c'était la rencontre entre la philosophie, l'hébétude et l'animalité. Et justement, sur cette question des animalistes, il y en a un, le plus célèbre, Peter Singer, qui... justement, insiste sur les capacités mentales, les performances, la richesse de vie, voire les projets de vie des animaux. Mais les conclusions qu'il en tire sont terriblement inquiétantes. Je voudrais vous citer ici quelques phrases du livre de Jean-François Bronstein, « La philosophie devenue folle ». Certaines vies d'humains profondément handicapés, sont, aux yeux de Singer, d'après Bronstein, moins dignes d'être vécues que celles d'animaux adultes et sensibles, voire dotés de projets de vie. Tout d'un coup, ils ont des projets de vie, on se rend compte que des handicapés n'en ont pas, et la séparation se fait à nouveau, hein, mais au détriment des hommes les plus vulnérables et les plus faibles. C'est un retournement terriblement inquiétant de l'animalisme, Elisabeth de Fontenay.
Oui, alors il ne faut peut-être pas être trop sévère avec Peter Singer parce que c'est un utilitariste. Donc ce qui l'intéresse, c'est de faire un calcul des plaisirs et des peines et voir où il y a le plus de plaisir et où il y a le plus de peine. Alors, c'est un point de vue que je trouve très très discutable, très très minable pour tout vous dire, mais ça explique ces passages fous. Nazis de son œuvre, qui ne sont pas nazis, qui sont juste gentils avec les animaux.
Alors pourquoi dites-vous nazi?
Parce qu'il a été traité de nazi aux États-Unis par des étudiants.
À cause de l'euthanasie pratiquée par les nazis?
À cause de son histoire, il vaut mieux jeter du bateau qui est en train de couler, il vaut mieux en jeter de ce bateau un handicapé profond qu'un chien.
Oui.
Voilà, c'est effroyable. Alors, je tiens par-dessus tout à dire que l'handicapé profond vaut plus qu'un chien. Ça ne veut pas dire que je ne considère pas la richesse de l'existence d'un chien, mais ça veut dire tout de même que un minimum de respect humain, j'adore cette expression, de respect humain fait qu'on ne peut pas dire un certain nombre de choses. C'est impossible. Ça ressemble trop aux vies avariées dont parlaient les nazis.
Et
les vies ne valant pas la peine d'être vécues.
Et l'un des livres que vous avez écrit après Le silence des bêtes, pour lever toute ambiguïté, c'est une déconstruction, Le silence des bêtes, est intitulé « Sans offenser le genre humain ».
Oui, oui.
Et c'est très important pour vous.
Très important
de mettre l'accent.
Oui, mais oui, voilà. J'ai senti que mon livre pouvait être utilisé dans un sens antispéciste.
Voilà.
Je ne me suis pas trompée, là.
Non, non.
Antispéciste. Antispéciste. Et j'ai vraiment pris peur. Quand je vous dis que Gaspard a veillé sur moi, a veillé sur mon parcours philosophique, ce livre, je ne l'aurais pas écrit si Gaspard n'était pas dans ma vie.
Ah oui.
Bien sûr.
Alors, vous avez cité tout à l'heure De Gaulle. Et De Gaulle est présent dans un des fragments de votre livre. Alors, pourquoi cette présence, Elisabeth de Fontenay?
À cause de cette fille qui était trisomique, je crois, du reste, et qui est morte d'une maladie, je ne sais pas très bien quelle maladie, elle est morte à 20 ans. Et cette fille, il avait une passion pour elle. Il s'en est toujours occupé. C'est extraordinaire de penser que l'homme de la France libre, quand il était à Londres, s'arrangeait pour la promener lui-même, consacrait des heures, une heure ou deux, à la promener pour être avec elle. Et il avait dit, c'est la grâce de ma vie. Et quand elle est morte, le prêtre, il s'est effondré sur le prêtre qui venait de la mettre en terre. Et s'est relevé, il a pris le bras de sa femme, et il lui a dit, maintenant, elle est comme les autres. Et ça, c'est un mot qui me bouleverse très, très profondément, très profondément. Je ne peux même pas en parler, s'il vous plaît. C'est le point limite de mon rapport à mon frère. Maintenant, elle est comme les autres. Ce que la société a échoué à réaliser, la mort l'a réussi. Et quand je dis la société a échoué à réaliser, la société, c'est-à-dire la médecine, ça veut dire la prise en charge, c'est-à-dire tout ce dont on parle aujourd'hui, et qui n'est pas encore du tout au point pour intégrer les handicapés mentaux à la communauté humaine.
Mais d'un autre
côté, je sais que vous êtes agacé par ça, parce que...
C'est la vérité.
Georges Mocot, oui. Georges Mocot était un type épouvantable.
Oui.
Vous êtes d'accord avec ça?
Oui, bien sûr.
Bon.
Alors dites-nous qui était Georges Mocot et quel rôle il a joué.
C'était un homme qui avait fait un peu de psychanalyse, qui était assez doué pour ça, et qui a été un grand théoricien de l'anti-immigration, de l'hygiène raciale, de l'antisémitisme, de la classification des populations en ceux qui méritent d'être accueillis et ceux qui ne méritent pas d'être accueillis en France. Bon, il a échappé, on ne sait pas pourquoi, à l'épuration. Il a fondé quelque chose de formidable. Il a commencé à fonder des centres d'accueil pour les handicapés. Il a été voir De Gaulle pour lui demander de l'aider. Et il a vu que De Gaulle était très, très bouleversé par le fait qu'il parlait. Il a raconté ça de façon complètement sirupeuse et louche. Et j'en veux à De Gaulle de ne pas avoir su que ce Mocot était un effroyable bonhomme qui méritait l'épuration, qui méritait la prison et tout ce qu'on veut. Et je lui en veux parce que je considère que De Gaulle se fichait pas mal de l'antisémitisme, de l'hygiénisme mental. Voilà.
Et là, vous allez un peu loin, parce que vous lui en voulez de ne pas l'avoir su. Donc vous reconnaissez que peut-être il ne le savait pas, et vous en concluez qu'il s'en fichait. S'il ne le savait pas, ça veut dire que c'était une ignorance.
Non. Écoutez, c'est...
Elisabeth de Fontenay.
Il ne le savait pas parce qu'il était quand même... Ça ne change rien à mon admiration pour lui, et à mon amour pour lui, mais il était quand même barésien. Ou maurassien, comme vous voulez.
Péguiste aussi.
Hein?
Péguiste aussi.
Oui, péguiste aussi.
Péguiste aussi. Et puis, il avait des juifs autour de lui. Il disait autour de moi, en 40, je n'avais que des juifs et des métèques.
Oui, voilà. Bon, je crois qu'il était parfaitement indifférent à ce qui s'est passé dans les camps d'extermination et dans les centres d'euthanasie. Voilà. Il ne connaissait pas ça. On peut pas lui en vouloir. Il avait autre chose en tête. Il avait la victoire de la France en tête. Mais voilà, mon amour de De Gaulle est même obscurci par cette inconscience, cette méconnaissance, pas tout à fait involontaire, de ce qui s'était passé pendant la guerre, qui en quelque sorte ne le concernait pas vraiment.
Bien, je m'arrête là-dessus. Vous êtes très sévère, mais de manière argumentée en effet. Et je voudrais que nous abordions un autre thème, un autre personnage, un philosophe celui-là, et celui dont Lévinas disait que c'était un des plus grands philosophes de l'histoire et qu'il fallait acquitter sa dette envers lui, fût-ce à regret. Évidemment, il s'agit de Heidegger, parce que vous lui consacrez un chapitre terrible dans votre livre. Vous commencez par dire que les chemins de pensée tracés par Heidegger ont tellement compté pour moi que j'ai toujours refusé de débusquer dans son œuvre l'introduction du nazisme dans la philosophie, vous le dites entre guillemets, puisque c'est la thèse défendue par Emmanuel Faye. Mais vous dites à la fin que vous ne pouvez pas vous interdire de penser que, comme la destruction des Juifs, l'euthanasie des handicapés mentaux aurait pu, dans l'esprit des lecteurs, recevoir des traitants une sorte de facilitation. Ce qui veut dire que la conclusion contredit un peu la première phrase. Alors, dites-nous le sens de cette présence d'Heidegger dans le livre « Gaspard de la nuit ».
Je distingue « Être et temps », qui est le premier grand livre d'Heidegger, des autres livres écrit pendant la guerre ou après la guerre. C'est contre être et temps que j'en ai.
D'accord.
Parce que l'idée que l'existence humaine, le Dasein, l'être là, n'a rien de biologique. Il était très hostile à toutes les pensées de la vie, qu'elles soient celles de Husserl, qu'elles soient celles de Max Scheler. Il voulait se démarquer complètement des pensées de la vie pour avoir une pensée de l'existence. L'homme n'est pas un vivant, si je puis dire, il est un existant. Et Heidegger a complètement coupé l'existence humaine de toute racine biologique. Et je pense que beaucoup de ces choses qui sont irrecevables dans sa pensée viennent de là, en particulier son rapport aux animaux. Il y a une cécité totale d'Heidegger, alors qu'il parle tellement bien de l'agriculture
motorisée,
il n'y a pas un mot sur les abattoirs, sur les animaux n'existent pas dans son œuvre. Parce que précisément, c'est de l'ordre biologique, de l'ordre de la vie. Et l'homme, le Dasein, l'existence humaine, c'est un rapport à l'être. Seul l'homme a un rapport à l'être. Et c'est là que je pense que j'ai dit facilité, je n'ai rien dit d'autre que facilité, hein, que la pensée qui s'exprime dans être et temps pourrait avoir des conséquences, a pu avoir des conséquences sur le fait que les Allemands ont très bien accepté l'élimination des malades mentaux.
Bien, alors je voudrais...
Qui n'ont pas une vie authentique, qui ne sont pas capables de résolution, du courage de résolution.
Je voudrais vous faire une objection, oui. Si vous le permettez, Elisabeth de Fontenay. Vous dites que le mot de Nietzsche, l'être, nous n'en avons d'autre représentation que le fait de vivre. Et vous dites que ce mot de Nietzsche retentit avec une force inouïe. Mais qu'est-ce que la vie pour Nietzsche, notamment ? Eh bien, voici quelques extraits. Vivre, c'est essentiellement dépouiller, blesser, dominer ce qui est étranger et plus faible, l'opprimer, lui imposer durement sa propre forme, l'englober et au mieux, l'exploiter. On ruinerait la source de la vie si l'on voulait se défaire de ce qu'il y a en elle, en un certain sens, de nuisible. Et on peut dire que dans l'idéologie nazie, il y avait constamment, jamais question de l'être, mais constamment une apologie de la force vitale. À l'idéologie bourgeoise, les nazis, et avant eux, des gens comme Junger, qui n'a pas été nazi, eh bien, opposaient les impératifs naturels de la vie. Ce qui a notamment beaucoup choqué Thomas Mann, dans un article admirable, « Régénération de la bienséance », publié en 1931, il s'inquiète du biocentrisme et du fait que ce n'est plus la liberté et l'humanité, mais le dynamisme, l'instinct de vie, les impératifs naturels qui sont la monnaie linguistique courante. Donc, c'est assez étrange que vous référiez à la vie contre Heidegger, alors même que on peut dire que la critique du biologisme qui se trouve dans son livre sur Nietzsche est une critique plus ou moins cryptée de l'idéologie nationale-socialiste elle-même, Elisabeth de Fontenay.
Eh bien oui, c'est vous dire que Nietzsche ne peut pas être interprété comme vous le faites, à livre ouvert. Et Heidegger lui-même, pendant la guerre, et contre le nazisme, mais de façon très, très prudente, n'a cessé de déconstruire l'interprétation biologisante, vitalisante de Nietzsche. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire. Donc, quand je dis la vie n'avons pas d'autre représentation de l'être que la vie, je suis anti-heideggerienne, certes, mais je tiens compte du fait que Heidegger a lui-même purgé la pensée de Nietzsche de tout vitalisme, de tout biologisme.
Ah, quand même. Ah oui.
Ah ben, c'est évident. Mais Heidegger a purgé la pensée de Nietzsche de toute interprétation nazifiante.
Oui, mais d'un autre côté, il y a eu une méditation sur le propre de l'homme né de la Shoah.
Oui.
Je voudrais citer Lévinas, mais aussi Primo Levi, et peut-être également Vassili Grossman. Pour cette méditation a conduit Lévinas à une définition de l'humain, non pas par la vie, la persévérance dans l'être, le conatus, mais par le virement du pour soi en pour autrui.
Oui. Hein,
il a cette phrase extraordinaire. Le moi des hommes, acculé par la souffrance au carcan du soi-même, éclate dans sa misère en miséricorde. Et c'est ce que dit aussi Vassili Grossman dans une réflexion commentée par Lévinas de Vie et Destin, où il parle de la petite bonté, la bonté d'une vieille qui, sur le bord de la route, donne un morceau de pain à un bagnard qui passe, la bonté d'un soldat qui tend sa gourde à un ennemi blessé, la bonté de la jeunesse qui a pitié de la vieillesse, la bonté d'un paysan qui cache dans sa grange un vieillard juif, la bonté de ces gardes de prison qui risquent leur propre liberté, transmettent des lettres détenues adressées aux femmes et aux maris. Et Lévinas en... Et là, on voit une vraie critique de Heidegger, c'est-à-dire Lévinas en vient à dire que l'humain, ce n'est pas le Dasein, mais c'est la crainte d'accomplir dans le Dasein de mon Dasein, de prendre dans le Dasein de mon Dasein la place de quelqu'un. Et je citerai pour finir Primo Levi, ce n'est qu'une supposition, moins l'ombre d'un soupçon, que chacun est le quin de son frère, que chacun de nous a supplanté son prochain et vit à sa place. C'est une supposition, mais elle ronge, elle est nichée profondément en toi comme un ver, on ne la voit pas de l'extérieur, mais elle ronge et crie. Donc voilà, c'est la critique de Heidegger est peut-être se situer là, non pas dans l'apologie de la vie face au Dasein et à la méditation sur l'être, mais précisément dans une critique de l'être au nom d'une définition de l'humain par la mise en question de sa place dans l'être.
Vous savez, j'aurais pu donner comme titre, puisque j'emprunte des titres, j'aurais pu donner comme titre à mon livre Humanisme de l'autre homme.
Oui.
C'est vous dire que je suis touché par ces textes de Lévinas, mais ça ne sert à rien de substituer l'autre à l'être. C'est pour moi, c'est aussi, non pas aussi inefficaces, inefficients l'un que l'autre. Je crois que si on dénie la tendance de l'être à persévérer dans son être propre, on ne sait plus de quoi on parle. Moi, je refuse de ne pas adhérer à cette proposition spinoziste, qui n'est pas seulement spinoziste, elle est faite par Hobbes avant. Et je pense que le rapport à l'autre, la tendance de l'être à persévérer dans son être, quand elle rencontre l'autre, rencontre la tendance de l'autre à persévérer dans son être. Et la communauté humaine, elle se constitue comme ça, par des conatus, il faut bien dire le mot spinoziste, par des conatus qui s'allient, qui se rencontrent, qui se font la guerre, mais qui s'associent finalement dans la société, et dans une société peut-être de plus en plus large. Je n'aime pas cette façon de considérer ce que fait Lévi-Strauss aussi, du reste, l'amour propre comme le grand mal. Je ne crois pas.
Non, je vous suis très bien, mais est-ce que dans ces moments où toutes les institutions s'effondrent, l'humain ne s'atteste pas justement dans autre chose que la persévérance vitale? Il y a la persévérance vitale, et puis il y a ce geste,
bien sûr, mais...
ce geste un peu gratuit et dangereux qu'on fait pour l'autre. Alors, il ne faut pas aller jusqu'à une définition sacrificielle de l'humain. Lévinas va parfois jusque-là quand il parle de la sainteté irrécusable. Mais tout de même, les gestes énumérés par Vassili Grossman, c'est le suspens de la persévérance vitale.
Notre ami Wolf a cité une chose de Fénelon qui m'a absolument bouleversé. Fénelon, croit-on que je peux préférer ma vie à moi-même? C'est magnifique. Mais ce moi-même, c'est encore la tendance de l'être à persévérer dans son être, pas au sens vital, biologique du terme. Voilà, moi je ne peux pas démordre de cela, puisque tout ce que j'ai écrit s'appuie sur ça.
Alors vous dites notre ami Wolf, je rappelle qu'en effet, vous avez eu une conversation, ici même, avec lui, sur la corrida, et une conversation très intense, très dramatique. Et c'est dans le cadre de cette conversation, reproduite dans le livre des animaux et des hommes, qu'il en effet cite cette très belle phrase de Fénelon.
Elle est magnifique, cette phrase.
Bien, alors revenons au livre lui-même. Vous dites que vous appelez votre frère Graspard pour préserver aussi une certaine discrétion. Et puis à la fin du livre, coup de théâtre, vous donnez son nom, Gilbert Jean. Pourquoi ? Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui vous permet de donner son nom à ce moment-là?
Là aussi, il le fallait, ce que je vous dis. Là, c'était une nécessité. Ça aurait été abominable de cacher son nom. C'est comme si j'avais honte de lui. Et puis, je crois que cette absence de descendance de l'un et de l'autre a beaucoup joué. Et j'ai voulu lui donner, non pas une éternité, mais une certaine vie après la mort. Quand il sera mort, comme à moi-même, dans les bibliothèques. Voilà, il y a son nom qui est écrit quelque part. Et c'est mieux dans un livre que sur une tombe.
Alors, vous écrivez ceci, ce sont les derniers livres de votre ouvrage, Élisabeth de Fontenay. Tes parents t'ont appelé Gilbert Jean, et si je tiens finalement à laisser une trace de ton prénom, c'est qu'après que nous aurons l'un et l'autre disparu, sans descendance, notre nom et nos prénoms, imprimerés, sauvegardés, survivront un temps dans le clair-obscur des bibliothèques, qui sont les seuls tombeaux d'où il arrive parfois qu'un lecteur vous fasse revenir. Et alors cela m'a fait penser à un texte tout à fait extraordinaire de Lévinas, peu connu parce qu'il ne figure pas dans ses œuvres, mais dans un livre présenté par Marguerite Léna, Honneur au maître. Elle a demandé à un certain nombre de personnalités, des artistes, des médecins, des universitaires, des journalistes, des industriels, des hommes politiques aussi, de rendre hommage à un maître qui a joué un rôle crucial dans leur vie. Et le dernier texte, c'est celui de Lévinas. et il est intitulé Mitgenommen. Il dit que Lévinas, en 1920, ses parents bénéficièrent d'une occasion qui leur permettait de retourner en Lituanie. C'est là, dans la classe terminale, un lycée juif de langue russe, que je préparais le certificat de maturité, l'équivalent du baccalauréat. Et pendant cette classe terminale, il a eu comme professeur d'allemand un juif profondément assimilé à la culture germanique, le docteur Moïse Schwab. Il avait découvert le judaïsme de l'Europe de l'Est à l'occasion de l'occupation allemande. Il en fut ému et décida de se consacrer à lui. Il accepta donc un poste d'enseignant, mais au lycée juif de Lituanie. Mais c'est l'Occident, et l'Occident connu à travers la culture allemande, et la culture allemande à travers Goethe, qui nous éblouit. Donc, il a d'abord donné des cours où les élèves lisaient Hermann et Dorothée. Livre qui évoque notamment un dialogue européen vécu dans la paix. Ces pages préparaient la découverte des pages de Faust, qui disait Moïse Schwab, se lisent avec 40 degrés de fièvre, promesse qui tenait les meilleurs en haleine. L'année s'est terminée sur Poésie et Vérité, où Goethe raconte son enfance à Francfort et énumère les tableaux des peintres, souvent obscurs, qui ornaient l'appartement. Obscurité de la gloire, qui a choqué un certain nombre de jeunes élèves. Pourquoi des inconnus? Et Moïse Schwab a eu cette souveraine réponse. Goethe les a emportés, mitgenommen, dans son immortalité. Commentaire de Lévinas et Montaigne, Descartes, Pascal, Bergson, ces passants qui emportent tant de gens, de choses, de terreaux dans leur immortalité et leur confèrent ainsi leur dignité. Serait-ce cela l'Occident? Pushkin, Pétrarque, Dante, Shakespeare, regard qui orne le monde. Voilà. Et ce mitgenommen m'a fait penser à ce geste qui est le vôtre et la définition que vous en donnez à la toute fin de votre livre, Elisabeth de Fontenay.
Je suis touchée que ce soit Marguerite Léna qui ait fait ces entretiens, parce qu'elle appartient à l'ordre de Saint-François-Xavier qui m'a élevée. Le collège Sainte-Marie où j'ai été élevée était animé par cet ordre de Saint-François-Xavier. Et comme je considère que j'ai une grande dette vis-à-vis de ces années d'apprentissage, je vous redis que je suis touchée de la mention du nom de Marguerite Léna dans notre émission.
Ah ben, très bien. Et Mitgenommen, ça vous touche aussi un peu quand même?
Oui, beaucoup, évidemment.
Mais je ne savais pas pour Marguerite Léna. Oui. Alors, un dernier mot sur une personne, enfin, un petit enfant qui figure justement dans l'œuvre de Primo Levi, La Trêve, Urbinek. Et ce Urbinek, vous le citez longuement, vous en parlez, en écho aussi à ce qui est arrivé à votre frère. Alors, qui est cet Urbinek et pourquoi cette résonance entre Urbinek et votre frère?
Un petit garçon, probablement tzigane, un tout petit garçon squelettique, anormal, un développement qui s'est arrêté, qui ne parlait pas. Et une nuit, on a entendu articuler les mots Urbinek. Et c'était pas un cri d'animal, c'était une articulation. C'était très intéressant, ça. C'était des syllabes articulées. On ne savait pas ce que c'était. Si c'était son nom, si voulait dire qu'il voulait manger, on ne savait pas. Mais il y avait quelque chose qui n'était pas un cri, qui était une articulation de syllabes. Et ce petit garçon est mort après la libération d'Auschwitz. C'est Primo Levi raconte ça et ça m'a évidemment totalement bouleversé. Vous-même, je pense que c'est... Je crois que je vous ai entendu en
oui,
parler.
Oui, j'en ai parlé, plusieurs fois.
C'est quelque chose de très, très beau et la manière dont les autres déportés ont fait attention à cet enfant. Sinon, veiller sur lui, vous ne pouvez pas veiller sur quelqu'un dans les camps. Mais on prêtait attention à cet enfant. Et la manière dont Primo Levi a fait cet enfant un personnage de son livre, c'est quelque chose de très bouleversant pour moi.
Et il est...
Parce que mon frère, Mon frère était comme moi. Je ne sais pas s'il aurait assumé ça, s'il avait été normal. C'est une grande question pour moi. Est-ce que j'aurais pu faire la juive, comme je l'ai fait, si mon frère avait été normal? Il m'aurait peut-être dit « Arrête, arrête, calme-toi ». Peut-être. Ou peut-être il aurait été pire que moi. Je ne sais pas. Mais mon frère était quand même demi-juif et handicapé mental. Il avait toutes les raisons d'être exterminé.
Ça. Oui, et en même temps, Primo Levi, je crois que le mot prononcé par celui que les détenus avaient appelé Urbinex, c'était quelque chose comme masticlo, quelque chose comme ça. Et Primo Levi dit... Urbinec mourut les premiers jours de mars 1945, libre mais non racheté. Il ne reste rien de lui. Il témoigne à travers mes paroles. Me rappelle aussi le livre que vous avez écrit. En effet, votre frère témoigne à travers vos paroles.
Je vous remercie.
Voilà. Bien, bah écoutez, l'émission se termine. Merci infiniment, Élisabeth de Fontenay.
Merci à vous.
Je rappelle donc le titre de votre livre, Gaspard de la nuit. Il est publié aux éditions Stock. J'ai cité aussi plusieurs livres, alors je vais en garder un. Honneur au maître, présenté par Marguerite Léna. Il est publié aux éditions Critérion. Les autres références bibliographiques, vous les trouverez sur le site répliquefranceculture.fr où l'émission est téléchargeable un an et écoutable à vie. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Hochard et François Connac, à la technique aujourd'hui, Delphine Baudet, dans un instant, Concordance des temps, de Jean-Noël Jeanneney.